Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Comme hier, un ancien international suisse est avec nous, Patrick Sylvestre. Mais avant de l'entendre sur le Brésil-Suisse de dimanche, Jérôme Moutet pour lui tailler le portrait.
Patrick Sylvestre, vous êtes né au milieu des chars d'assaut de l'armée suisse, non loin de la place d'armes du village jurassien de Bure. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à bientôt 50 ans, beaucoup de femmes disent de vous que vous êtes encore un sacré canon. Vous êtes né le 1er septembre 1968, une année bissextile qui débute, quelle horreur, par un lundi. D'après votre nom de famille, vous auriez dû naître le 31 décembre. Mais non! Cette année-là meurt le chimiste allemand Otto Hahn, un chimiste allemand mort en 68. On imagine très bien ce qu'il faisait 25 ans plus tôt. Votre parcours de joueur est éloquent, truffé de clubs de renom. Le FC Bâle? Non. Young Boys? Non plus. Getze? Encore moins. Mais plutôt la Chaux-de-Fonds, Lugano et le Lausanne Sport, que des clubs mythiques dont 2 sur 3 ont disparu de la circulation à haut niveau. Mais vous jouez aussi au FC Sion, chez Christian. Et là, en 1997, la consécration ultime au niveau national. Vous remportez le championnat avec le club valaisan et vous faites même le doublé en gagnant la coupe, comme l'année d'avant d'ailleurs. Le FC Sion, champion suisse, pour les plus jeunes qui nous écoutent, oui, ça a existé dans une autre vie, mais c'est arrivé. D'ailleurs, des Coupes de Suisse, vous en avez gagné 3, puisqu'en 93, vous la gagnez déjà avec Lugano. Vous jouez plus de 300 matchs en étant professionnel, tout en vous révélant un véritable buteur. Un poisson, un poison des 16 mètres. Vous êtes même surnommé le campagnol de la surface de réparation. Ah non, ça c'est plutôt à cause de votre petite taille, 1m73. Vous marquez la bagatelle de 16 buts en 300 matchs, soit un ratio d'un but tous les 18 matchs, ce qui est à peu près identique au ratio de Seferovic ces 24 derniers mois avec l'équipe suisse de foot. Durant cette période, l'apogée pour vous sera l'équipe suisse dont vous portez le maillot 11 fois avec le même ratio puisque vous marquez 0 but. Vous participez à la Coupe du Monde 94 où vous jouez même un match face à la Roumanie le 22 juin, ce qui constituera votre dernière entrée sur le terrain avec le maillot suisse. On sera sûr sans marquer ce jour-là, mais vous participez aussi à l'Euro 96 mais sans jouer et du coup sans marquer non plus. En 98, alors que l'équipe de France devient championne du monde et que les Français en parlent encore comme si c'était hier, vous mettez un terme à votre carrière de joueur avec une cheville droite qui ressemblait au genou gauche actuel de Stan Wawrinka. Vous entraînez alors votre club de cœur, le FC Bure, un club cher à son président, surnommé Gazon. Si vous faisiez de la course automobile, votre président s'appellerait peut-être Bitume. Vous reprenez des études comme technicien en informatique et depuis 2006, vous êtes engagé à l'Office des sports du canton du Jura. Vous avez 3 enfants, une fille, Chloé, qui a joué au FC Bâle et en équipe suisse, un fils, Noah, qui joue chez les jeunes du club anglais de West Ham United et un autre fils, Kylian, qui joue également au foot. Patrick Sylvestre, on retiendra de vous que vous avez gagné 3 Coupes de Suisse, un championnat, que vous avez été international et tout cela pour un jurassien, c'est un peu comme être champion du monde. Mais on retiendra surtout de vous que vous êtes la preuve vivante que c'est possible d'avoir le même physique à 50 ans qu'à 25 ans. Et pour ça, on vous dit merci, Patrick.
Le sourire de Patrick Sylvestre après ce portrait de Jérôme Moutet. Par contre, je vous ai vu faire un petit non quand il a dit que vous avez raccroché sur Suisse-Roumanie en 94, c'est faux ?
Oui, alors tout d'abord, bonjour. Puis, bonjour. C'est peut-être la seule erreur dans le pédigré, mais on trouve partout cette erreur. Donc Jérôme n'y peut rien, parce que j'ai encore fait un match contre l'Arabie Saoudite, justement. C'était quelques mois plus tard, à Sion. Ça a été ma dernière sélection, mais c'est un match passé inaperçu, puisque j'ai pas marqué, comme j'ai pas eu 18 matchs en équipe nationale. C'était impossible, puis j'ai ce ratio-là. Donc voilà.
En tout cas, félicitations Jérôme. Aujourd'hui, vous avez pris un risque parce que hier, Marc Ottiger était au téléphone, tandis que là, vous étiez à portée de gifle de Patrick Sylvestre.
Oui, il était très gentil. Hein. Vraiment, merci.
Et vous y avez échappé. Patrick Sylvestre, dimanche, Brésil-Suisse. On l'attend tous ce match depuis le tirage au sort, finalement. On a fait un petit sondage sur nos pages Facebook aujourd'hui pour demander si nos auditeurs croyaient à un exploit de la Suisse. 65% de oui. Est-ce que vous partagez cet optimisme ?
Alors, on espère tous une entrée en matière avec un bon résultat. C'est le premier match est toujours important pour entrer dans ce genre de tournoi. Plus que le résultat, même si c'est les points qui comptent à la fin, ça sera surtout intéressant au niveau de la performance, de voir ce qu'on peut proposer. En face, c'est le Brésil, un des très très grands favoris de cette Coupe du Monde. On connaît tous les qualités de cette équipe. Donc voilà, a priori, ça va être quand même très compliqué de ramener quelque chose, mais avec ce qu'a montré défensivement l'équipe nationale depuis un moment, cette solidité, c'est quelque chose qui est tout à fait possible tout de même. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, je pense que le deuxième match contre la Serbie, indépendamment du résultat finalement de ce premier match, sera vraiment le match important.
Ça sera aussi une opposition de style entre le Brésil et la Suisse, parce que vous l'avez dit, secteur défensif solide, rigoureux du côté suisse. Côté brésilien, on va essayer évidemment de faire le jeu, de mettre un petit peu de folie. On avait Matheus Vivian, ancien joueur brésilien, qui nous disait tout à l'heure que la Suisse peut espérer quelque chose si elle ose. Il ne faudra pas se contenter justement de s'appuyer sur notre secteur fort défensif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, et je pense que c'est les progrès qu'on a réalisés au niveau de notre équipe nationale, au niveau du jeu, depuis quand même plusieurs années, on propose beaucoup plus de jeux que ça n'était le cas. L'organisation, je dirais, depuis le début des années 90, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Cette rigueur défensive aussi. On manquait un petit peu de folie, on a toujours des problèmes dans les 30 derniers mètres, mais sur la sortie du ballon, sur le jeu dans les petits espaces, notre équipe nationale a fait quand même de gros progrès avec des joueurs aujourd'hui qui techniquement ont un bagage vraiment aussi intéressant qui régate au niveau international. Donc il faudra pouvoir utiliser, quand on a le ballon, la garder un peu, pouvoir faire quelque chose, pour souffler aussi un petit peu, parce qu'on l'a vu contre l'Espagne, c'est quand même pas évident, sur la deuxième mi-temps par exemple, de subir totalement pendant 45 minutes, même si on n'a pas, en l'occurrence, pris de goal, ça va être quand même pas évident de pas prendre un but de cette manière-là. Donc il faudra pouvoir souffler un petit peu plus qu'on l'a fait lors de cette mi-temps-là, utiliser au maximum les possibilités offensives, mais voilà, c'est quelque chose que l'équipe nationale est tout à fait en mesure de faire.
Alors, il y a ce contexte de premier match qui est toujours un petit peu oppressant, mais à la fois, est-ce que c'est pas le moment pour l'équipe de Suisse de jouer libérée, justement parce qu'elle joue le Brésil sur un premier match et pas le couteau sous la gorge sur un troisième match où on serait obligé de jouer notre qualification?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est finalement le calendrier se prête au mieux de jouer le Brésil lors de ce premier match. Comme vous le dites, tout ce qu'on peut gagner là, ça sera du bonus pour la suite. Et s'il n'y a rien, encore une fois, il faudra surtout que la performance soit intéressante parce que c'est important de se mettre en confiance pour aborder les deux matchs suivants. Et encore une fois, si on peut tirer quelque chose de ce match-là, partir avec un point par exemple ou plus, ça sera tout bonus pour la suite. Mais en cas d'échec, il n'y a rien de compromis, absolument pas.
La grosse interrogation quand même du côté suisse, on parle de ce secteur offensif, ça fait presque une dizaine d'années que ça pose souci depuis qu'Alex Frey a pris sa retraite. Et là, on va affronter une équipe qui défensivement aujourd'hui, le Brésil, on peut plus dire que c'est seulement la folie devant, hein. Derrière, il y a aussi de la rigueur. On pense à Marquinhos, à Miranda, Marcelo et j'ai oublié le latéral droit
pour Danilo.
Et Danilo également, pour vraiment monter aussi offensivement. On a beaucoup parlé d'organisation offensive, Seferovic, Gavranovic, après ce qu'on a vu en préparation, est-ce que vous arrivez à deviner peut-être un choix de Vladimir Petkovic? Au vu de ce qu'on a vu en préparation, qu'est-ce qui s'impose logiquement?
C'est difficile de faire un choix. Il y a toujours ce problème, Seferovic. Faut-il changer? Faut-il continuer? Ça fait quand même déjà dans la période de qualification, on a connu passablement de problèmes dans ce secteur-là. Encore une fois, je pense que les gros progrès, ça s'est vu notamment à l'Euro il y a 2 ans en France. On a fait de très très bonnes choses à la sortie du ballon, pouvoir remonter des ballons avec Chaka proprement, arriver à 30 mètres du but adverse. Parfois, alors peut-être ça, c'est le point, le petit bémol. Parfois, en prenant beaucoup de temps, en étant très calme et... Le problème aujourd'hui, c'est que toutes les équipes se regroupent très vite et ces transitions-là, on joue de plus en plus, mais il nous manque un peu ce pouvoir de percussion dans les 30 derniers mètres. Alors, faut-il continuer avec Seferovic? Gavranovic est en forme, en tout cas, il l'a démontré, même s'il a marqué beaucoup dans un championnat mineur, ça reste pour un attaquant important d'être en confiance, ça c'est primordial.
Seferovic a marqué sur son dernier match de préparation et on a vu d'ailleurs que Petkovic était content de l'avoir fait entrer et qu'il prenne ce ballon pour marquer parce que marqué juste avant, c'est bête, mais il y a des petites choses qui ne sont pas palpables, comme la fameuse confiance du buteur. Et Seferovic a retrouvé au moins un petit peu de ça.
Oui, alors je pense que ça, c'était important. Et certainement qu'il va repartir dans la même lignée de ce qu'on a vu dans les derniers matchs de préparation. Seferovic, Zemaili. Et voilà, c'est un petit peu l'endroit où on peut se poser des questions. Est-ce que ce but-là va redonner la confiance nécessaire à Seferovic? Ça sera ce premier match qui va nous le dicter. Ça va peut-être aussi donner des réponses pour la suite, finalement. Je crois que sur les côtés, les choses, elles sont assez claires avec Shaqiri et Zuber. Mais je crois que ce problème vraiment offensif dans les 30 derniers mètres, il vient aussi du fait qu'on a un jeu très stéréotypé. Finalement, c'est encore la zone où ces dernières années, les grandes équipes aujourd'hui permutent tout le temps. Il y a tout le temps du mouvement, ça va dans tous les sens. Et nous, on a encore un petit peu là notre organisation bien suisse où les joueurs de couloir restent dans les couloirs. Il n'y a pas forcément beaucoup de solutions de mouvement et de variété apportées dans le jeu. Et voilà, c'est encore un des points sur lesquels on doit beaucoup travailler.
Vous parliez de Shaqiri Zuber quasiment acquis. Est-ce qu'un Mbolo qui a marqué des points quand même dernièrement ne peut pas être la surprise au coup d'envoi? Ça serait plutôt à la place d'un Zuber dans ce cas-là.
Ouais, c'est possible. En tous les cas, une des trois positions, parce que finalement, Mbolo peut jouer sur les trois positions offensives. Et oui, je pense que c'est le gros point positif des derniers matchs de préparation, notamment sa rentrée contre l'Espagne, où il a fait beaucoup de bien physiquement. Il a vraiment amené aussi quelque chose. Donc, en même temps, Vladimir Petkovic est assez traditionnel et va certainement garder et commencer avec son 11 dont il a l'habitude. Mais en effet, je pense qu'Mbolo est une bonne option aussi pour le cours du match ou pour la suite, surtout, encore une fois, pour les matchs. suivre.
J'ose le pavé dans la mare, mais dans cette animation offensive, bon, souvent on blâme les attaquants, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que les bons ballons arrivent aussi sur les attaquants? Je vois un Shaqiri sur les matchs de préparation, joueur qui a un statut quasiment indéboulonnable, mais qui, parfois sur plusieurs actions, donne quand même le sentiment de ralentir le jeu de l'équipe de Suisse, parce que c'est un gaucher qui joue à droite, il doit se remettre sur son pied gauche, il repique finalement assez peu dans l'axe. Est-ce qu'à un moment, c'est pas quand même un petit problème? Mais toucher à Shaqiri en équipe de Suisse, c'est presque le sujet tabou.
Ouais, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a cette discussion. Il manquait un petit peu de régularité à Shaqiri, finalement, dans toutes les grandes équipes dans lesquelles il est passé, pour pouvoir vraiment s'imposer. Et en équipe nationale, c'était aussi son problème. On sait qu'il est capable de choses extraordinaires. On n'a pas 50 joueurs dans notre équipe qui peuvent faire ce genre de gestes et débloquer des matchs.
On l'a vu contre la Pologne, où il est peut-être un petit peu transparent, mais il sort ce ciseau à l'euro qui permet d'égaliser.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, le positionnement sur un côté, en 10, on essaie de changer, de varier. Mais voilà, cette animation-là, pour revenir, je crois que ce qu'amènent les latéraux, Rodriguez, voire Lichtsteiner, il y a quand même des ballons dans les 16 mètres. Le problème aujourd'hui, il est un petit peu plus de ce qu'on fait dans les 16 mètres, dans les courses, dans ce qu'on propose. Notamment dans les derniers matchs, encore une fois, il y a eu quelques ballons. Rodriguez a quand même un super pied gauche. Il nous amène des ballons dans le dos de la défense.
Peut-être
qui sont
le plus en forme actuellement.
Alors vraiment, par contre, on a beaucoup de peine à être juste dans les courses, dans le timing, pour pouvoir utiliser ces ballons-là. Et c'est là qu'il faut absolument faire un pas en avant.
Et puis l'expérience, elle nous montre aussi qu'il faudra savoir gérer le résultat contre le Brésil, quoi qu'il se passe. Je vous propose d'écouter Gelson Fernandez, qui s'exprimait justement. Lui, il a été buteur contre l'Espagne en 2010 pour cette victoire 1-0. Et derrière, la Suisse n'était pas sortie de son groupe et il a retenu les leçons de ce match-là.
Ça veut dire qu'après le premier match, c'est pas fini. On se sert de cela parce qu'en cas de résultat positif ou de résultat négatif, ce n'est pas fini. Et ça, c'est la grande leçon de 2010.
Gelson, on voit souvent la Suisse ne perd pas, voire même qui gagne ses premiers matchs, mais on la voit aussi souvent assez nerveuse. Le premier match, c'est très très particulier.
Ouais, mais ça ne vaut pas que pour la Suisse, ça vaut pour toutes les équipes. Tant que tu ne rentres pas dans la compétition, tu ne peux pas savoir où tu en es. Et je crois que nous, on a beau faire toutes les statistiques du monde sur nos 4 dernières années ou 2 dernières années. Après le match, on peut dire « Ah ouais, maintenant ils sont là ». Mais pour dire « Maintenant, ouais, on est là », on ne peut pas savoir. Aucune des équipes ne sait.
Après l'Espagne, il ne fallait pas se dire que c'était fini. Il y aura une analyse à tirer. Il faudra jouer analyser avec intelligence et surtout sans froid, quel que soit le résultat contre le Brésil. Il faut presque déjà le préparer maintenant, cet après-match aussi.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse les joueurs finalement, plus que moi et l'entraîneur, c'est la performance qu'on sera capable de proposer. J'ai pas trop de soucis défensivement, même si en face, il y a des joueurs tellement imprévisibles, tellement extraordinaires. On avait encore les derniers buts de Neymar depuis sa rentrée. C'est extraordinaire. Donc voilà, ça, c'est pas toujours facile à contenir, mais on va défendre, on va être là. Ça j'en suis convaincu. Il faut absolument qu'on puisse reproduire un petit peu plus ce qu'on avait en première mi-temps contre l'Espagne. Ces sorties de ballon pour sauter, déjouer ce pressing adverse, ce qu'on n'a pas fait en deuxième mi-temps justement contre l'Espagne, pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir garder un petit peu le ballon et puis essayer de proposer quelque chose un petit peu plus loin. Et ça va nous permettre aussi, c'est la meilleure manière de préparer la Serbie derrière.
Dernière question très courte, vous parliez de Neymar, il faut faire un plan anti-Neymar ou alors si on commence à faire des plans contre les joueurs brésiliens, on ne s'en sort pas?
Oui, je crois que c'est toujours l'éternelle question, mais il n'y a pas de plan vraiment à mettre en place, même s'il y en a un. C'est une constance défensive dans le sens qu'il faut absolument doubler et être proche à 2-3 joueurs chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, parce que si vous laissez un contre un et que le joueur suivant se trouve à 15 mètres, ça va sentir mauvais.
Un petit pronostic, Patrick Sylvestre, vous y couperez pas avant ce Brésil-Suisse?
Bon, je vous ai entendu tout à l'heure, vous étiez assez pessimiste, vous avez d'ailleurs changé quand on a parlé de saucisson, mais moi je vais rester optimiste. Non, je pense que, allez, allons-y pour un 1-1, c'est ça.
1-1, c'est pas mal, ça serait pas mal, 1-1. Merci beaucoup Patrick Sylvestre, on imagine que vous serez devant votre télé évidemment pour regarder ce match-là et que vous allez vibrer. Merci beaucoup de vous être déplacé dans les tsars du ballon rond.
Merci à vous.
Merci, très bonne soirée.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.